Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, nous voici ce matin avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc une émission qui détient sa force du fait qu'elle reflète la réalité qui blesse dans notre société. Donc une réalité souvent masquée par les grands médias, la réalité de l'injustice grandissante envers les citoyens ici au Québec et si vous voulez plus précisément ici à Montréal. Donc vous savez sûrement tous que nous sommes tous en deuil encore une fois après la mort de ce citoyen qui vient d'être abattu par un agent de l'SPVM le vendredi passé à la station de métro Bonaventure vers le début de l'après-midi. Donc une mort gratuite qui vient de s'ajouter au monument des victimes de la brutalité policière. Mais cette fois, vous allez voir que l'injustice avait débordé largement pour basculer dans la totalité de l'absurdité. Et à la fin de cette émission, on va tous se demander dans quelle société vivons-nous réellement. Donc le corps de la victime se trouve présentement à l'instant dont je vous parle à la morgue, au fond d'un tiroir criblé de balles, classé projet dans l'oubli volontaire. On parle plus de la mort d'un citoyen, mais plutôt d'une pièce à conviction, d'une preuve scellée, hautement confidentielle pour la partie adverse. Il faut se justifier, blanchir les mains tachées de l'auteur de la fusillade, reconnu coupable, condamne tout le système politique de grande négligence envers les citoyens. Voilà pourquoi l'acquittement est prévoyé d'avance. Alors que le policier qui a tiré volontairement sur la victime se trouve aujourd'hui parmi ses proches, ses amis, ses collègues, en congé de grâce, héros de la dernière heure, rassuré et protégé par tous les droits d'un système en faillite, rappelez-vous que la victime sombre dans le noir, dans le silence, aucune larme chaude qui réveille la conscience, aucune personne et encore moins une famille qui réclame le corps. Ni proche, ni ami, ni souci, ni moyen de défense, celle comme ça, dans l'obscurité et dans l'obscurité à l'autre. Sinon, au bout du tunnel, mes chères auditrices, chers auditeurs, nous, le public, qui pense de temps en temps à cette victime qui a fui la mort depuis longtemps à la recherche de la sécurité. Donc voilà, n'oubliez pas, chers auditeurs, chères auditrices, que depuis la fusillade, le corps de la victime est refroidi suffisamment dans la morgue et l'actualité chute dans la même température. Bientôt, les médias ne parleront plus de cette victime, sinon pour nous rappeler que le gouvernement a versé un peu d'argent aux 20 000 itinérants qui sillonnent les rues de Montréal. Les médias, ce nouveau fléau qui dérape sérieusement de sa mission, devient un autre front de combat pour les citoyens et le public. Vous l'avez tous plutôt remarqué à quel point les médias ont réussi à détourner notre regard de la scène du crime, des motifs qui ont conduit à cette tragédie qui secoue notre conscience collective. Comment les policiers et comment, pardon, aussi les politiciens étaient définitivement avares d'opinion. Nous avons parlé de tout ces jours-là, les enjeux de la santé, le manque du budget des services hospitaliers, or pour les itinérants, la drogue, l'alcool, les projets de l'ouverture d'une urgence psychiatrique, des logements pour les sans-abri, les intervenants sociaux, le travail des CLSC, les refuges et les ressources, bref, tout. Même un peu de la formation des policiers afin d'épargner la vie des citoyens. Un discours s'est répété après chaque tuerie. Et vous savez que tous ces niaiseries hein, n'ont rien à voir avec la fusillade du vendredi passé où un homme, avant tout, avait aveuglément perdu la vie sous les balles de l'autorité policière. Donc il fallait parler beaucoup. Afin que les gens s'endorment, la situation est scandaleuse, terrible. Il y a un homme, un citoyen qui n'a jamais souhaité faire du mal à qui que ce soit. Il vient de mourir sauvagement, gratuitement, sous l'autorité de ceux qui sont supposés de le protéger. Vous allez voir par la suite que la première balle reçue par la victime est injustifiable. Alors la deuxième fait scandale, mais la troisième, je n'ai malheureusement aucun mot pour la décrire, sinon l'extrémité de l'abus de pouvoir et de l'autorité dans une société qui cultive la loi de l'impunité. L'homme qui était abattu par un policier n'a jamais souhaité d'être un itinérant, et encore moins d'être un sans-abri. Vous allez voir combien de fois cette personne avait succombé aux injustices, combien de fois s'est-il relevé et relevé pour finalement succomber à cette dernière injustice qui était trop violente pour un homme qui a vécu l'enfer en cherchant la protection et la paix. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui, soi-disant, entre autres, assure la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les rabis du pouvoir. Mon collègue Roland Cazès, comme d'habitude, m'accompagne le long de cette émission. Nous avons suite à notre dernier conseil d'administration mandaté un de nos administrateurs de faire une petite enquête sur le lieu de la fusillade. Monsieur Robin Edgar va répondre à nos questions vers la fin de l'émission. Il y a aussi Madame Rosemonde Legault, technicienne du son et responsable du suivi administratif du MAJ, qui, s'il nous reste un peu de temps, elle va nous parler de son avis, ou plutôt de son opinion. Maintenant, il y a aussi Clara, cette future juriste, qui vient nous dire son point de vue par rapport à cette fusillade. Chères auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute après notre thème musical. La mort de ce citoyen nous concerne tous.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, Thompson, Abba Thompson est à la une.
Donc voilà, rebonjour chère auditrice, cher auditeur. Donc la mort de ce citoyen nous a profondément blessés. Elle nous a blessés, non pas parce qu'elle a pu être évitée, mais parce qu'elle était excessivement violente, chargée de haine. On tire une fois sur un individu pour le tuer, et la deuxième pour s'assurer qu'il est mort, mais la troisième pourquoi ? Est-ce que deux balles dans le corps d'un itinérant, ce n'est pas assez ? C'est justement l'extrême agressivité, une sorte de vengeance absurde, un non-respect en définitive. Le SPVM n'a jamais visé un motard, un gangster, un terroriste, un truand, voire un fabricant ou un vendeur de drogue. Un sans-abri est une proie facile, un itinérant, un marginal, quelqu'un qui ne voit pas la nécessité de porter une pièce d'identité sur lui, qui n'a quasiment pas le statut social, pas de visage réel. On ne dit pas un homme était battu, ou plutôt abattu par un policier, on dit un itinérant, un sans-abri, un refuge, quelque chose qui est mort, point final. Pas plus que ça. Qui est cet homme, d'abord, avant d'arriver à la station de métro Bonaventure, et d'être abattu avec sang-froid, abattu, selon les témoins, par une première balle qu'il a atteint au dos? La victime alors est tombée au sol, et c'est là justement où les deux autres projectiles ont suivi leur trajectoire en plein thorax. L'homme de 34 ans qui a été abattu par un policier de la SPVM est d'origine iranienne. Donc il avait fait un long voyage pour arriver à cet endroit où la mort le guettait dans la clandestinité, et après avoir vécu dans une petite ville qui s'appelait Kamiran, dans la province d'Isfahan, en Iran, c'est une région kurde déchirée par la guerre depuis longtemps, jamais sécuritaire, un territoire mal tracé, envahi à plusieurs reprises, un terrain qui a connu le génocide et côtoyé la mort à répétition, et notre victime de la fusillade du vendredi passé à la station du métro Bonaventure était un nationaliste. Après avoir combattu auprès des rebelles, il avait fini par fuir cette partie de la terre, craignant les représailles du gouvernement iranien. Selon certains témoignages, il a passé quelques temps dans le nord de l'Irak, un autre lieu un peu moins sécurisé aussi, le Canada finalement, vers le Canada, la terre promise, la terre des rêves, de la paix, de la prospérité, mon œil. Vous comprenez que la publicité d'Immigration Canada est foudroyante, trompeuse, mensongère, voire dans certains cas criminelle. Il y a des gens qui ont tout vendu, tout abandonné, sacrifié le cher et le moins cher pour se rendre ici. Pour eux, c'est la paix, l'égalité des chances, la justice avec une grande majuscule, le respect, la prospérité, le bonheur, et j'en passe. La victime du vendredi passé abattue dans le métro Bonaventure par la police de la SPVM, justement traitée, ou plutôt traîner avec lui cette image, ce rêve, depuis longtemps, comme des milliers de personnes qui arrivent chaque année au Canada. Le Canada lui avait rapidement donné le statut de réfugié et en même temps devra rassurer sa nouvelle vie sur son sol. De Halifax, donc, les choses n'ont pas réellement fonctionné. Donc le jeune rêveur de 27 ans déménage. Il tente une chance à Montréal, il cherche du travail, mais malheureusement en vain. La misère, vous voyez, que commence à mordre de plus en plus. Alors de temps en temps, il refuge dans l'alcool. C'est le seul remède qu'il trouvait efficace pour l'oubli, pour échapper à la souffrance, à cette énorme démolition de ses rêves. Expulsé de son appartement pour avoir accumulé un retard de $215, expulsé par un jugement de la Régie des logements de Québec, expulsé dans la rue par la police et un huissier, par un ordre de la cour, une accumulation de dettes, une somme de $215, et l'homme se retrouve dans la rue, itinérant de nouveau, sans abri, sans point de repère. Vous comprenez sûrement le manque d'argent et de ressources, le manque de travail, l'empêche de revenir en appartement, alors il fait quoi, ce pauvre misérable? Il augmente sa consommation d'alcool. Il augmente tout ce qui lui fait oublier cette nouvelle réalité frappante, violente, imaginable. Cette réalité justement qui a fait de lui un clochard sans vouloir. Pendant ces 4 ans qu'il les a passés dans la rue, et plus précisément le 26 novembre 2008, cette journée faisait très froid. Une grande tempête de neige s'amorce sur la ville. Et le jeune homme qui avait à peine 30 ans, ils se sont persécutés par le froid, par la tempête. Vite, il cherche un abri, un refuge, n'importe quoi. Sa vie était en danger de nouveau. En plein centre-ville de Montréal et devant une température menaçante, il croise un immeuble inhabité, vide. Il rentre. Puis il dort. La police l'arrête pour introduction par infraction. Il passe 7 mois de détention préventive, 7 mois de prison. Et pourtant, la loi réserve l'innocence de l'accusé jusqu'à où un tribunal reconnaît sa culpabilité. Après 7 mois de prison, la victime rencontre un juge. Ce dernier sait très bien qu'aucune accusation ne devrait être portée contre lui. Il y a ce qu'on appelle un droit supérieur à tout système juridique, qui est celui de la survie de l'individu. La loi ne peut, sans absurdité, punir celui qui commet un léger délit pour sauver son existence. La punition n'aura pas de valeur exemplaire, puisqu'une autre personne dans la même situation refera exactement la même chose. Le droit au logement est déclaré urgence nationale pour le Canada. Personne n'est censé être sans abri. Mais avec tout ça, le juge, au lieu de condamner l'enquêteur dans le dossier ou le juge qui a ordonné sa détention, il condamne le pauvre injustement pour une autre journée de prison. Une journée injustement fait honte à notre système judiciaire. Alors imaginez-vous, 7 mois dites préventives. Voilà un bon exemple de notre système judiciaire. Nous ne sommes pas tous sur le même pied d'égalité. Nous ne sommes pas tous sur le même niveau de considération. Le pays de la justice et l'égalité trahit fortement les rêves de notre victime qui a trouvé la mort le vendredi passé, au métro Bonaventure sous les balles du service de la SPVM. Restez à l'écoute, chers auditeurs, chères auditrices. L'escalade de l'injustice n'est pas encore finie. Vous allez voir et comprendre pourquoi cette victime avait peur de l'esprit et la raison d'agir correctement. En même temps, après la pause, Immigration Canada tire sur lui à son tour une ordonnance d'expulsion pour lourde criminalité. Attention, cette fameuse condamnation prononcée injustement, ridiculement par un juge qui lui a coûté l'ordre de l'expulsion du Canada.
Ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées, certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à descendre. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.
bonjour, chère auditrice, cher auditeur. Donc, nous avons dit que la victime qui a été abattue au métro Bonaventure le vendredi passé par la police, sans aucun motif, sinon celui d'être surpris dans cet endroit probablement en train de dormir, de fatigue, ou celui de flâner dans les corridors de cette station en quête de quelques bouffées de chaleur. Donc, il faut comprendre que l'hiver est trop dur pour les sans-abri et les itinérants. Et la provocation de ces personnes vulnérables est un jeu de distraction. Donc plus tard, nous allons revenir sur la scène du crime et sur les motifs de l'agression. Restons maintenant avec cette ordonnance d'expulsion d'Immigration Canada. Cet ordre d'expulsion a été prononcé le 30 mai dernier par le tribunal d'Immigration Canada. Et lors de sa comparution, le Louis Dubus, c'est un commissaire à l'immigration, n'a pas demandé à la victime de quoi il avait été reconnu coupable. Ou qu'est-ce qui l'a poussé à rentrer dans cet immeuble d'infortune? Savez-vous qu'est-ce qu'il lui avait posé comme question? Il lui avait posé la question la plus stupide qu'un juge ou un commissaire pourrait poser à un accusé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes toujours au pays des rêves et tout est possible. Donc, tout est permis, surtout quand il s'agissait plutôt d'un vulnérable, comme la victime qui a perdu la vie sous les balles d'un agent de la SPVM vendredi passé. Donc nous sommes dans une jungle où le plus fort dévore le plus faible, sans gêne aucune. Donc bref, le commissaire d'immigration lui avait demandé s'il avait été reconnu coupable d'introduction par effraction. Et la victime avait répondu « J'étais saoul ». Donc il se souvient de rien, le pauvre. Avant de finir cette histoire, j'aimerais vous rappeler qu'en 2011, Immigration Canada avait expulsé 15 425 personnes vers son pays d'origine. Dans ce nombre, aussi élevé qu'il soit, on se demande combien de personnes avaient été expulsées pour les mêmes motifs qu'on vient de voir. Combien de personnes qui a volé pour calmer sa faim et s'y trouver devant l'Immigration Canada avec un ordre d'expulsion. Combien de personnes s'est réfugiées quelque part contre le froid et la misère et Immigration Canada avait réclamé son renvoi. Personne n'a le courage de ne dévoiler ces injustices qui font ravage dans ce pays de merveille. Bref, l'ordre de renvoi concernant notre victime qui a été atteinte par 3 projectiles d'un agent de l'SPVM le vendredi passé était inconcevable. Donc il représentait pour la victime un ordre d'exécution sommaire. Alors qu'est-ce qui peut lui arriver dans ce couloir de l'attente? C'est le condamné à mort qui attend l'heure de son exécution, son renvoi chez ses persécuteurs, on dit que l'attente du condamné est pure que sa condamnation. Son avocat qui était désigné d'office pour le défendre a trouvé ça absurde, épouvantable. On se croit dans un roman de Kafka. Il a décidé de porter cette stupide décision en appel. En laissant la victime dans la panique, le stress, la peur, l'insécurité, l'itinérance et l'extrême pauvreté, le jette dans la confusion totale. La santé mentale de la victime s'est détériorée rapidement et juste quelques moments avant son exécution dans le métro Bonaventure, des témoins avaient attesté qu'il était absent. Dans son monde à lui, il murmurait l'incompréhensible. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que notre sans-abri mérite une sentence aussi sévère que cette mort tragique? Après tant d'injustices et de torts de l'autorité, de la part de l'autorité et du pouvoir canadien. Restez à l'écoute, une pause musicale aussi, et nous revenons à la dernière partie de cette tragédie, la mort de M. Mohammadi Farshad. Voilà.
Dis-moi. Je crèverai seul comme un chien en haut d'une montagne qui plonge dans la mer. La narine frémissante et tous les sens en éveil pour le dernier chaud de la vie. Dis-moi qu'un oiseau viendra me rassurer de son indifférence, tout va bien, me dira-t-il. Il est juste grand temps de pourrir. Dis-moi que les feuilles viendront roussir et qu'avec elles, le vent m'emportera sans qu'aucun boulet de la vie, pour une fois, ne puisse me retenir. Alors, il ne sera rien que je regrette. sauf peut-être cette vie entière que nous n'avons pas vécue. Cette promesse non tenue, mais qu'importe, que le vent m'emporte, nourrir les vers et les cloportes, ce sera bien là de toute une vie, le seul contrat bien rempli. Jamais vendu mon âme, mais mille fois je l'ai offerte en pure perte, en pur drame, en pâture aux femmes. Mais de tout ce vin ne reste que le tanin, vinaigre de plaie par trop ouverte au fond d'un graal puis sans fin, où se dilue l'hier sans lendemain.
Voilà donc, rebonjour chère auditrice, chère auditière. Qu'est-ce qu'un itinérant pourrait faire dans une station de métro alors qu'à l'extérieur la température chutait sous le zéro? Se réfugier justement dans un tel endroit pour un itinérant ou un sans-abri ne peut représenter que deux choses: la quête de la chaleur ou sommeiller quelques instants pour reprendre ses forces. Une chose certaine, que ce n'est pas monsieur Farshad Mohammadi, si le nom de notre victime, qui a été abattu par un agent de SPVM vendredi passé à la station du métro Bonaventure. Je disais que c'était les deux policiers, bien sûr, qui l'ont interpellé dans son sommeil, ou debout dans un coin, ou si vous voulez, faire les 100 pas. Pour la victime, cette approche représente une menace. A-t-il pensé qu'il s'agissait de l'exécution de l'ordre du renvoi par les agents d'Immigration Canada, ou plutôt une menace par d'autres itinérants? Il est vrai qu'on ne peut pas savoir, même la victime n'aura sûrement pas la réponse si elle était restée vivante. On uniquement déduit plutôt qu'il était surpris et sa réaction était un peu trop rapide. Pour un homme qui vit dans la terreur, le réflexe devient évident. Donc il faut noter que la plupart des itinérants ont dans leur possession un petit couteau ou un exacto pour se défendre. Ils sont souvent exposés à des agressions. La victime, avec la rapidité de son geste, voulait justement éloigner la menace. C'est une réflexion automatique d'une personne terrorisée et persécutée. Maintenant, est-ce qu'il pensait réellement que c'était des agents d'immigration qui sont venus le chercher, des militaires dans leur uniforme ou d'autres? Personne ne pourra malheureusement connaître qu'est-ce que s'était passé dans la tête de cet individu pour agir d'une telle façon. Mais une chose certaine, la victime n'a pas été à cette station pour blesser qui que ce soit. Après cette agression inconsciente, la victime s'est sauvée et les deux policiers l'ont suivi, lui ont ordonné de se coucher au sol, et selon les témoins, il était visible que notre victime n'avait pas l'air de suivre tout ce qui se passait autour de lui. Elle voulait simplement qu'on lui fiche la paix. Un autre témoin confirme avoir vu la victime de cette triste fusillade juste quelques minutes avant les coups de feu. Il affirme que la victime était dérangée. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'un psy pour s'apercevoir que la victime était confuse, un peu perdue et dépassée par l'événement. Maintenant, vous devez noter le plus important de cette histoire. Il s'agit d'un autre témoin qui a témoigné le samedi 7 janvier. Le témoin était dans un témoignage publié dans le journal de la presse. Atteste avoir vu la victime l'air de serrer quelque chose dans sa poche, avoir plié quelque chose puis la glisser dans sa poche. Ce qui démontre qu'au moment de la fusillade, la victime n'avait aucun objet menaçant dans sa main. Et le policier ou la policière qui avait ouvert le feu n'avait aucune excuse, malheureusement, pour le faire. Selon leur formation, un policier ne peut utiliser son arme qu'en dernier recours. Notre témoin précise que les deux derniers balles étaient tirées après que la victime était au sol. N'oubliez pas que la victime se fuyait vers la sortie de la cathédrale. Il avait reçu la première balle au milieu de l'escalier roulant, puis les deux autres une fois tombées à la fin de l'escalier. C'est effectivement, la victime était déjà blessée sur le sol, on peut être inconsciente. Probablement, pourquoi, on se demande tous aujourd'hui, pourquoi les deux dernières Baal. Le mystère demeure complet. Voilà pourquoi le projet de la loi 46, le projet qui continue d'enquêter sur des policiers qui enquêtent sur des policiers, ne peut que renforcer la loi de l'impunité et de l'abus de l'autorité et rassurant la bêtise davantage. Ce projet de loi est une grande insulte aux citoyens, une non-considération, un manquement au devoir de l'État de protéger le citoyen. Le projet de loi 46 ne rendra aucun service à la société civile, sinon d'augmenter le nombre de ses victimes. Y a-t-il quelqu'un, cher auditeur, chère auditrice, parmi vous qui pourra prétendre trouver une faille si les policiers veulent masquer une scène de crime? Sont-ils pas les vrais spécialistes par excellence? Alors ce n'est pas la peine d'être plus naïf que le naïf. Écoutez, la confiance envers le système est au plus bas niveau jamais atteint. Et c'est une bonne occasion pour que le gouvernement prouve aux citoyens que les protections et la propriété de la vie des citoyens est non négociable. Donc, nous allons maintenant passer à une pause musicale et nous revenons cette fois avec mes collègues pour des détails. Restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, nous sommes tous des proies potentielles de l'arbitraire, de l'injustice, de l'abus de pouvoir. Après la pause, peut-être on va commencer par Edgar Robin, un membre actif de MAGE, et nous parlera de ce qui a pu accueillir sur la scène du crime de la station de métro Bonaventure, où notre victime d'aujourd'hui, un homme de 34 ans, était abattu froidement par un agent de la SPVM vendredi passé au début de l'après-midi. Donc voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs. Revenons maintenant avec nos invités d'aujourd'hui. On commence directement avec Monsieur Edgar Robin, un membre de MAGE qui a été mandaté pour aller sur la scène du crime. Bonjour Monsieur Edgar.
Bonjour.
J'aimerais bien, si c'est possible, nous dire qu'est-ce que vous avez accueilli quand vous êtes allé sur la scène. Quels sont les votre.
Premièrement, même avant d'être mandaté par MAGE, mardi dernier, je suis allé sur les lieux pour essayer de voir s'il y avait des caméras de surveillance qui ont pu voir qu'est-ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Et j'ai déterminé ça, même avant la réunion, qu'il y avait une section où il n'y a pas de caméras.
Ça veut dire qu'il y a une partie où il y a des caméras, qu'ils ont sûrement filmé la scène, mais d'autres parties où malheureusement il n'y a pas de caméras.
Exact. Alors, après d'être mandaté par MAGE pour faire...
Le travail,
C'était pour essayer de trouver le trajet. Oui. Je suis allé une deuxième fois, puis j'ai parlé avec les gens qui étaient là, les itinérants, surtout les itinérants. Oui. Mais il y a aussi des gens qui vendent des choses dans la station Place Bonaventure qui ont dû être des témoins aussi. Oui. Mais jusqu'à maintenant, j'étais pas capable de parler avec...
Vous n'êtes pas certain à 100%, ça, on a compris.
Mais en termes des témoignages des sans-abri qui ont vu une partie ou une autre de la fusillade, un monsieur a dit que le premier coup de feu, c'était en bas de l'escalier.
C'est-à-dire le policier était positionné en bas d'escalier.
C'est ça.
Et la victime était déjà en train de monter
fuir.
L'escalier.
Il était en train de fuir.
De fuir. C'est
ça. Oui.
C'est-à-dire qu'on peut déduire comme quoi la balle était au dos.
Exact.
Première conclusion.
C'était vers la sortie.
Il s'en va vers la sortie, oui,
c'est ça. Lui, il essaie de fuir vers la sortie,
oui.
Puis il a monté l'escalier.
L'escalier, oui, montant, oui.
C'est ça.
Oui.
Et d'après le témoin, le premier coup de feu, c'était d'en bas, en haut. Puis,
si je peux comprendre, M. Edgar, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que la position du policier qui a tiré le premier coup, il y avait un angle de surveillance de caméra.
Il y a une caméra qui a pu voir ça.
C'est-à-dire, on peut déduire que facilement que ce coup-là a été filmé. C'est-à-dire, on peut voir...
Ça a été filmé, évidemment, ça dépend sur si la caméra était en fonction et tout ça, mais ça a été certainement possible que ça a été filmé. D'après moi, c'est fort probable.
Fort probable, voilà.
Mais là, ce section-là, où il y a les escaliers, il n'y a pas de caméra de surveillance là-dedans.
Oui.
Alors, tout ce qui s'est passé là-dedans, ça n'a été pas filmé.
C'est-à-dire qu'une fois les policiers l'ont suivi, j'imagine que le premier coup qui a atteint la victime, et après ça, la victime est tombée par terre, j'imagine.
Oui. Oui.
Et c'est là où les deux derniers coups, elle n'était pas filmée, on ne peut pas les...
C'est ça, d'après moi, ça n'a été pas filmé.
Oui, oui.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des témoins.
Oui.
Ça, c'est possible qu'il y a eu des témoins.
Oui.
Mais j'ai vu aucune caméra de surveillance.
Dans cet angle-là. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on peut confirmer, probablement oui ou je ne sais pas, on peut confirmer que quelqu'un qui est atteint par une balle, il va automatiquement tomber au sol.
Normalement, oui.
Normalement, voilà. C'est-à-dire une fois qu'il est tombé au sol, on se demande maintenant pourquoi les deux coups de feu qu'ils ont suivis.
Oui. Et une autre chose que je peux dire maintenant, selon les témoins, il y a eu une pause entre
le premier coup et les deux autres.
Le premier coup de feu, il y a eu une pause d'un certain nombre de secondes, puis il y avait deux autres, bang, bang. Ah. Alors, je peux dire ça, ça a l'air un peu...
Oui, mais c'est tout à fait crédible ce que vous disiez, si je ne me trompe pas, parce que, excusez-moi M. Roland, parce que quand même, quand le policier qui a tiré, il était au bas d'escalier, une fois il a tiré, c'est-à-dire le temps mort qui a survécu entre les deux après les deux projectiles, c'est-à-dire qu'il y avait un suivi, c'est-à-dire il a suivi la victime sur l'escalier, c'est ça?
Le fait qu'il y a eu un pause, ça donne cette impression-là.
C'est ça. Une fois rendu devant le corps qui était par terre, qui était sur le sol, c'est là où les deux coups sont surgis.
C'est possible que ça s'est passé, c'est fort probable, mais il y a des choses qu'on peut dire, mais je pense que c'est mieux de ne pas dire trop en ce moment.
Tout à fait juste. Non, mais nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas des juges, nous sommes loin de... Mais nous, on essaie d'analyser à travers ce qu'on a entendu des témoins, à travers vous comprenez, à travers un petit peu, parce que quand même, c'est pas...
Je m'excuse. Est-ce que je pourrais faire une petite intervention, s'il vous plaît?
Oui.
Moi, j'estime que quand un animal est blessé, pour ne pas le laisser souffrir, on lui tire deux balles dans la tête pour le finir. Est-ce que les policiers ont le droit de faire ça avec l'humanité, avec les êtres humains? Ou est-ce que les animaux, on est considérés comme des animaux? Je trouve que c'est une extermination afin que la personne ne souffre pas et ne puisse plus parler.
Non, mais c'est une conclusion qui est vraiment juste aussi, parce que je me demande, moi, peut-être que ça s'excuse par haine ou par vengeance. Parce que le policier qui est blessé, apparemment, il est suivi.
C'est pas nécessairement le cas. Il y avait deux policiers.
Non, mais moi, selon certains témoignages, ils ont assuré que c'était les deux policiers qui ont marché, ils ont couru derrière la victime. Ça veut dire que il était blessé.
C'est pas nécessairement le policier qui a été blessé qui a tiré les...
Non, je n'ai pas dit celui-là, mais enfin...
Mais il y a autre chose aussi. Le métro est un refuge pour l'humanité. S'il y a une attaque, un bombardement, une fusillade quelque part, vous avez le droit de vous réfugier dans le métro. Le métro est au service des citoyens pour se réfugier.
Donc vous êtes en train de me parler de la provocation.
Alors, ce gars-là s'est réfugié dans le métro plutôt que de mourir de froid dehors sur le trottoir.
Oui.
Et surtout qu'à l'heure actuelle, on enlève même les bancs.
Effectivement, sur ce point-là, il y a très peu de place à centre-ville pour les sans-abri durant le jour. Durant la nuit, il y a des refuges, mais durant le jour, il y a très peu de place. Il y a certaines places où il peut s'en aller pour trouver le chaleur, mais très peu.
Très peu. Mais je comprends aussi que quand même, vous voyez quelqu'un itinérant, normalement vous le faites, vous laissez tranquille, hein, vous n'allez pas le provoquer. Mais j'aimerais bien poser à Clara. Oui. Quelle est votre opinion? Vous êtes la future juriste.
Oui, pour ma part, je trouve la situation excessivement regrettable. Du point de vue de la victime, c'est une question de droit de l'homme, de droit à la vie.
Ouais. Alors quand j'ai dit citoyen, corrige-moi, hein, quand j'ai dit citoyen, ça ne peut pas dire que c'est un citoyen canadien, moi je m'en fiche de ça, mais c'est un citoyen du monde. Hein. C'est un citoyen, c'est un individu, c'est un homme qui a tous les droits, un être humain. Voilà. Non, moi le citoyen, je sais qu'il n'était pas un citoyen canadien et peut-être c'est mieux. Vas-y.
Et voilà, et pour peut-être faire un peu l'avocat du diable, du point de vue du policier, on peut peut-être parler de légitime défense, d'un point de vue juridique.
Je suis pas d'accord avec vous, parce que légitime défense, c'est quelqu'un qui vous attaque pour là, il vous a attaqué, puis vous a laissé, là. C'est vous qui l'a suivi. Elle est où, la défense? Elle est où, comment vous justifiez ça? On court derrière quelqu'un et on dit que...
D'après moi, ça peut pas être la légitime défense.
Mais non,
parce qu'ils ont tiré dans le dos,
ils
étaient en train de fuir.
Ben oui.
D'après... Les témoignages, première queue, on parle pas des deux autres, mais la première queue s'était prise d'en bas, il était en train de fuir.
Vers la sortie de
cathédrale.
Ça n'a
rien à faire avec la défense légitime.
En parlant de légitime défense, le problème dans ce cas-ci, c'est que la réplique, l'acte du policier n'était pas proportionné du tout à l'agression.
Tout à fait.
Légitime
défense, on parle plutôt d'une haine ou d'une vengeance, je sais pas, c'est difficile, hein, mais je suis pas d'accord avec vous, Clara, pour le légitime défense, je suis pas d'accord.
Il faudrait éclaircir, lorsqu'un policier tire, il tire dans les jambes, est-ce qu'il a le droit de tirer dans les jambes ou il doit tuer tout de suite la victime, il doit la descendre, comme on dit, la tuer? J'ai entendu dire que le policier n'a pas le droit d'handicaper une personne, de la blesser, car cette personne peut se retourner contre lui pour cette agression-là, alors il le liquide de façon à ne plus avoir de recours judiciaire envers cette personne. D'ailleurs, vous le savez, ce gars n'a absolument aucun recours judiciaire contre les policiers.
J'aimerais bien poser la question à Edgar, si vous me permettez, Edgar. Quel était le sentiment que vous avez des gens que vous avez interrogés sur la fusillade?
Bon, une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que les sans-abri, c'était surtout les sans-abri.
Sans-abri qui partagent.
Et j'étais impressionné par le fait qu'ils étaient assez ouverts. Ils ont raison d'avoir peur de récrimination et tout ça.
D'être agressé, vous voulez dire?
Pardon?
D'être agressé.
Oui, ils ont peur d'avoir des problèmes avec la police après, tout ça, s'ils parlent trop, etc. Mais ils étaient assez ouverts. Ils ont parlé dans une façon où ils avaient, je ne sais pas le mot français, mais ils étaient... they were concerned.
Préconcerné, oui.
C'est ça. C'était clair qu'ils ont trouvé ça pas juste, pas de tout, et pas nécessaire. Surtout, ils ont tout dit que c'était pas nécessaire.
Au moins, ils sont solidaires avec cette victime-là, oui.
Est-ce qu'on pourrait s'adresser à l'SPVM? Est-ce qu'ils ont des patrouilles l'hiver pour voir si des itinérants sont endormis dehors sur le trottoir et les amener à la maison du père et autres? Qu'il y a cette escouade qui existe toujours?
Mais ça va poser la question à Tremblay, là. On parle d'une population d'itinérants. On parle de 20 000. C'est toute une population. Roland, j'aimerais bien aussi vous poser la question. Vous, comment vous avez pris cette mort-là?
Moi, en toute sincérité, j'ai trouvé ça dégueulasse. Quand on dise déjà qu'un exacto, c'est une arme blanche, je regrette. Cette personne est dans la rue. Il y a des gens qui travaillent dans le shipping et ils ont toujours une trousse. Non, et dans cette trousse, il y a un exacto. Ce que je veux dire, une arme blanche, c'est quatre doigts d'homme, une lame avec quatre doigts d'homme qui atteint le cœur.
Non, mais c'est une arme pareille. Voulez-vous ou non? Mais ce que je veux savoir, c'est que moi, ce que j'ai demandé aux itinérants, la plupart des itinérants, ils ont en possession
qu'ils se défendent contre eux-mêmes, parce que eux, il y a des agresseurs.
Oui, voilà.
Et qui leur volent leur peu de manger qu'ils ont, ou leur bouteille de boisson ou je ne sais pas. Alors donc ils ont une espèce de défense, une sécurité qu'ils assument.
Oui, donc je retourne vers Madame Edgar, Madame Rosemonde Legault, pour savoir vous de votre part comment vous avez pris tout ça.
Je voudrais m'excuser pour tous les auditeurs avec les jeux de micro, c'est un peu dérangeant à entendre, mais on est beaucoup dans le studio. Moi, j'aimerais qu'on parle du rôle des médias dans cette affaire-là.
Tout
quand,
à fait.
Quand vous m'avez appelé lundi, parce que moi, la fin de semaine, je me déconnecte avec tout ce que j'entends. Oui. La semaine au travail, j'ai besoin de cette pause mentale-là.
Samedi dimanche.
Oui, du samedi dimanche, hors du dramatique. Qui se passe dans la société. Et quand j'ai ouvert sur Internet la page du journal La Presse et que j'ai lu qu'est-ce qui s'était passé avec M. Mohammadi, j'étais absolument consternée. Oui. et très, très triste. Et par la suite, évidemment, j'ai beaucoup suivi ce qui s'était passé pour voir ce qui se disait dans les médias. Et je me suis demandé si c'était pas une opération très, très bien concertée des médias pour complètement shifter entre guillemets, la discussion de ce qui s'était passé. Et je ne comprends pas comment ça se fait que dans les médias traditionnels, il n'y ait personne qui se soit levé pour dire « ça n'a pas de bon sens ». Et c'est absolument traumatisant ce qui s'est passé. Pour une société, comment ça se fait qu'on continue de marcher dans la rue tranquille, de retourner chez nous et de ne pas avoir cette crainte-là qu'un policier puisse shooter n'importe qui et qu'on ne soit pas révolté, qu'on traite comme ça les personnes les plus faibles de la société. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Et les médias, quel genre de médias et où sont nos journalistes, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au complot? Vous parlez de complot?
Non, je ne parle pas de complot. Je ne parle pas de complot. Je me dis juste, en quelque part, il y a cette culture-là du... Je sais pas comment la qualifier, du conservatisme, la culture de « on est tous des amis, puis on se parle, puis on s'aime donc, puis on... » Je ne sais pas comment dire, mais juste en écoutant Radio-Canada, par exemple, les émissions niaiseuses qui nous passent à 10h, là, puis à 13h, qui nous parlent de chaussures recyclables puis de patentes de même, alors que ce qui se passe dans le monde actuellement est assez inquiétant.
Pas dans le monde, juste ici, à la société.
Ben, déjà, ce qui se passe dans le monde, c'est inquiétant. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Montréal? Ouais, c'est encore plus inquiétant.
Ouais, c'est vraiment dégueulasse, quoi.
Souvenez-vous, quand je vous avais dit que la police, dans une manifestation, chassait RDI, M. David Gentile, et qui lui disait « dégage », et qui m'ont agressé aussitôt après, trois policiers sur un homme de 70 ans qui tenait une grosse pancarte avec ses deux mains, qui faisait absolument aucun mal. On lui disait « cours ». Il dit « non, je ne courrai pas », et de ce fait, on se jette dessus. Ils ont chassé les journaux, ils ont empêché les journalistes de pouvoir assister à ça. Pour pouvoir agresser une personne. Donc, il donne des ordres aux journalistes.
On va faire une petite pause musicale et on va revenir à la suite de la discussion.
Oh, there's someone who take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep? The middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon. Wish that I go to bed. opera lies in light, and God said, I don't go to the seas or to shed.
Voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Revenons à notre discussion sur la mort ou la fusillade de cet itinérant qui était abattu aux stations de métro Bonaventure le vendredi passé. J'aimerais bien juste, Monsieur Edgar, si vous pouvez même nous dire la coïncidence de cette date-là, le 6 janvier, dans le calendrier chrétien. Elle ouais. représente quoi?
Ouais, effectivement, comme j'ai dit,
une drôle de coïncidence.
Symbolique. Le 6 janvier, c'est ce qu'on appelle l'épiphanie. C'est le jour où, dans la tradition chrétienne, les trois mages, les trois rois, ont donné les trois cadeaux à Jésus.
Ils ont donné trois cadeaux à Jésus, c'est ça?
C'est ça.
Et l'SPVM, ils ont donné trois cadeaux aussi à notre victime.
Les mages, ils ont donné d'or, myrrhe et frankincense. Les agents de l'SPVM, ils ont donné du plomb à M. Fascher.
Roland, j'aimerais bien, si vous me permettez, savoir, vous savez très bien comme moi que cette victime-là n'a personne autour de lui, il n'y a personne qui le défend. À votre avis, qui peut le défendre?
Voilà. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est pour ça que Mage prend cette affaire en main d'une façon vraiment. Ils tiennent à avoir les renseignements du métro, les bandes magnétiques et ainsi de suite. Un gars qui a été tué dans un escalier mécanique, qui n'a aucune famille ici, qui n'a aucune parenté. Et c'est le rôle de Mage de protéger justement ces gens isolés qui n'ont absolument aucune aide, aucune famille qui peut se plaindre et demander un dommage.
Mais vous parlez de Mage. Moi, j'aimerais bien que vous parliez plus large que ça. Est-ce que c'est pas le devoir du citoyen de vraiment s'incliner sur ça?
Alors, les citoyens ont un rôle, c'est d'appeler à l'hôtel de ville. Parce que, écoutez, il y a des millions et des millions qui sont versés pour les sans-abri, pour ceci, pour cela, et on n'en tient pas compte. Maintenant, le Mage pourrait avoir un avocat pour aider ces gens-là, mais il nous faut le budget en conséquence. On ne peut pas. Alors, c'est aux citoyens d'exiger que Mage protège. Parce qu'aujourd'hui, c'est cet homme qui est seul, isolé, et ainsi de suite. Mais demain, ce sera peut-être votre fils, je ne le souhaite pas. Attention, ça sera peut-être votre fils, votre père, votre grand-père, votre oncle, un parent, quelqu'un de votre famille, puis qui a de la famille peut-être au lac Saint-Jean, qui sont éloignés, qui ne savent pas ce qui s'est passé. Écoutez, vous vous rappelez de M. Limoges qui a été tué aussi par erreur et dont on n'a absolument aucune nouvelle. Est-ce que la famille a été dédommagée? Non, on ne sait pas. Il avait quatre enfants.
Clara, j'aimerais bien juste, si vous me permettez, vous n'êtes pas obligé de répondre non plus. D'après ce que vous avez entendu ce matin, pensez-vous qu'il y aura des accusations portées contre le policier qui a tiré sur la victime? Je sais que c'est une question qui est très difficile, mais c'est une opinion, ce n'est pas un avis juridique non plus.
Des accusations contre le policier.
Vous n'êtes pas non plus obligé de répondre, Clara.
À prime abord, il y a un homicide. Mais une accusation envers lui, il se pourra qu'il soit exonéré par ses fonctions. Mais je ne peux pas avoir une réponse claire à votre réponse, malheureusement.
Je peux peut-être répondre. Ça ne sera pas une réponse claire non plus, comme Clara. On peut se rappeler ce qui s'est passé dans le cas de M. Lizotte, qui a été aussi tué par les policiers, qui a été battu à mort, par les policiers qui ont été...
Blanchis.
Qui ont été... ils ont pas été blanchis. Ils ont été déclarés non coupables par la justice et condamnés à des peines absolument ridicules, mais qui ne sont pas vraiment des peines. Non, par le commissaire, le comité à la déontologie policière.
Voilà, 25 jours de...
Oui, c'est ça, c'est complètement risible. Mais donc, par la justice, ils ont été déclarés non coupables. Donc,
la vie d'un homme coûte peu.
Ben, la vie d'un sans-abri coûte peu, s'en fout. Oui, ils sont pas productifs, entre gros guillemets. Hein. C'est pas...
Peut-être pour... je passerai un petit peu pour des derniers mots. J'aimerais bien entendre M. Edgar. Quel est votre dernier mot aujourd'hui? Avez-vous quelque chose à dire aux citoyens aujourd'hui suite à cette mort?
Bon, je pense qu'effectivement, il faut chercher la vérité de qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des thèses, il y a des témoignages, etc., etc. Je pense qu'il faut effectivement avoir une enquête publique, comme vous avez demandé, parce qu'on ne peut pas se fier aux polices de faire une enquête qui est vraiment... fiable. Je pense qu'il faut avoir une enquête indépendant.
Je passerai directement à Clara. Clara, je vous embête toujours avec mes questions. Je veux savoir, pensez-vous que cette loi, projet de loi 46, il va passer?
Malheureusement, je ne suis pas au courant de la loi.
46, c'est-à-dire les policiers vont, c'est eux, ils vont toujours continuer à enquêter sur les polices. Et il y aura un bureau de surveillance, c'est-à-dire un bureau de civils qui vont soi-disant revoir un petit peu, surveiller de loin comme ça l'enquête. C'est un petit peu, c'est un écran de,
c'est une voilà. Ridiculture.
Ouais, voilà. peut-être pouvez-vous nous dire juste simplement qu'est-ce qui est votre dernier mot pour les citoyens aujourd'hui, si vous avez un mot à dire.
Pardon, je vous remercie de nous écouter.
Ouais. Moi, je prétends en définitive que c'est aux citoyens de s'élever contre ça. Parce qu'on peut avoir, dans notre famille, on peut avoir quelqu'un qui tombe dans l'oubli, qui devient itinérant. Ça peut arriver. Un père de famille négligé par ses enfants, un gars qui a perdu la boule, qui a eu des malchances dans la vie. Ça arrive à tout le monde. Et nous devons automatiquement avoir un organisme qui puisse, comme un jury d'enquête, avec toutes sortes de monde là-dedans et qui participent, comme je l'ai déjà proposé, enquêter et que les policiers soient obligés de remettre les preuves et non pas les cacher. Puis
ça, c'est une autre chose.
Attends, je passerai le micro à Edgar. Oui, une seconde. Vas-y, Edgar.
C'est ça. Comme on a dit, il faut voir les vidéos de surveillance.
Voilà. Est-ce qu'on peut voir réellement ces vidéos de surveillance de la station ou le moment de la tragédie? Donc voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission et j'aimerais remercier mon collègue Roland Cazès pour sa fidélité à l'émission. Merci à monsieur Robin Edgar pour le travail et le souci qui porte à une telle injustice. Merci à madame Rosemont, notre technicien de son. Merci à Clara qui a quand même réussi à nous répondre parce qu'elle ne voulait pas. Et merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cette fenêtre pour que la parole de l'autre existe. À moi, chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.